sommes-nous passés à côté de tueurs en série? On connaît Nordal Lelandais, Michel Fourniret, Guy Georges, Dominique Pellicot, Le Grélet. Peut-on leur attribuer d'autres crimes? Et y a-t-il surtout d'autres tueurs en série dans la nature? C'est la question que se pose Thibaut Solano, que je suis ravie d'accueillir. Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? J'accueille aussi le général Daoust, ex-patron de l'IRSGN. Merci, mon général, d'être avec vous. Et ravi de vous retrouver. Alors Thibaut, vous avez enquêté sur 9 dossiers criminels et je dois confesser que j'en ai découvert quelques-uns. Les fillettes du printemps de 1987 en Ile-de-France, les meurtres de Saône-et-Loire. Dominique, ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est votre région,
chez moi.
On va en parler. Mais d'abord Thibaut Solano, vous avancez un chiffre. 57 tueurs en série dans les années 70 que vous mettez en miroir avec 4000 dossiers de cold case. Il y a un grand delta. Alors, combien ont pu échapper à la justice et comment on arrive à remonter ces individus?
En fait, il y a un double paradoxe avec les tueurs en série. C'est à la fois, quand on les connaît, quand on découvre les dossiers, ils sont beaucoup moins fascinants que ce que la fiction, et notamment la fiction américaine, a pu nous laisser penser. Et en même temps, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, le grand public connaît Lelandais, encore que Lelandais n'est pas officiellement dans la catégorie, mais il connaît Fourniret, Guy Georges, etc. Et il y en a d'autres qui ont été complètement oubliés. Et je suis même certain que mon chiffre de 57 est en dessous de la vérité. Parce que pour avoir le vrai chiffre, il faudrait par exemple aller à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, faire toute la presse régionale, ou en tout cas tout le Parisien depuis les années 70, pour retrouver des tueurs qui n'ont même plus aucune trace sur Google. Et puis effectivement, si on est en dessous de la vérité, c'est aussi parce que j'en suis sûr et je me fais en fait le porte-voix de magistrats, d'avocats, qui en sont persuadés également, et d'enquêteurs. On est forcément passé à côté d'autres tueurs en série.
Qu'est-ce que c'est qu'un tueur en série?
Exactement.
Alors, officiellement, et c'est par exemple également la définition qu'a retenu le psychiatre Daniel Zaguri, grand expert en la matière, puisqu'on a expertisé plusieurs, un tueur en série, c'est quelqu'un qui tue trois fois,
minimum,
à trois moments différents.
Au moins trois fois,
à trois moments différents. Un double meurtre plus un meurtre, ça fait pas un tueur en série. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la justice maintenant reconnaît les meurtres en concours. On peut être mis en examen pour meurtre en concours. C'est le cas, par exemple, de la personne qui aurait tué 4 hommes retrouvés dans la Seine à l'été 2025.
Meurtre
en concours. Voilà, les corps de choisi. Meurtre en concours, il suffit de 2, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tueurs, comme Nordal Lelandais. Je parle aussi d'un auteur en Saône-et-Loire, Pascal Jardin, qui n'ont pas officiellement 3 victimes dans leur parcours criminel, mais qui, selon tous les experts, ont le mode opératoire et la personnalité d'un tueur en série.
Mais il faut que ce soit le même mode opératoire à chaque fois pour que ce soit...
Non. La preuve, Le Grélet, qui s'en est pris à une fillette, qui s'en est pris à une jeune fille au père et à son employeur, et à un homme par...
Francis Saulme, qui tue des enfants, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. La tuerie de Chevaline, 4 morts.
Oui.
Sylvain Mollier, le cycliste, et puis la famille à Lily, le père, la mère, la grand-mère, c'est pas un tueur en série.
Non, normalement, c'est
pas. Il
n'y
a pas les critères.
C'est une tuerie, mais c'est pas un tueur en série. Sauf si le jour où on découvrira l'assassin, on s'apercevra qu'il en a tué d'autres avant.
J'ai un peu de mal avec le tueur de celui, vous parliez de la Seine, celui qui tue 2 personnes, c'est le tueur de.
Non, les corps de choisi,
les corps de choisi, il en a fait 4, mais Nordal Lelandais.
Vous avez dit que c'était un tueur, c'était.
Meurtre en concours.
Meurtre en concours. Ça, c'est la définition légale qui est assez récente, où effectivement, l'homme de choisi a été mis en examen pour meurtre en concours, mais si on avait tué que 2, il aurait eu la même mise en examen.
Alors moi, je fais appel à mes 2 anciens sur le plateau, d'accord? De votre expérience, quand est-ce qu'on a commencé à parler de tueurs en série? Est-ce que quand on donne cette appellation, il y a un petit peu longtemps, on ne vous croit pas? Ou on vous dit, c'est pas pour la France?
Alors, il y a un film qui a fait date, c'est Le silence des agneaux, et qui a révélé à la France qu'il pouvait y avoir officiellement des tueurs en série. En oubliant le Gilles Doré, en oubliant Docteur Petiot, en oubliant Vacher, Landru, etc. Et en se disant, c'est une culture outre-Atlantique que l'on n'aura pas. Et je me souviens, dans les années, début des années 90, quand le Service Central de Renseignement Criminel à la Gendarmerie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voulait développer une entité sur, justement, les meurtres qui étaient en série, eh bien, on a dit, attendez, c'est pas pour nous, occupons-nous d'abord de nos meurtriers à nous, le reste, on verra. On a mis plus de 10 ans à faire admettre le concept.
Alors, comme je suis le plus ancien de nous deux, moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, donc on est en 85-86, je travaille à France Soir, et je vais travailler sur les disparus de Mourmelon. Oui. Donc je vais faire le tour, tu en parles dans ton livre, hein, Thibault, le tour de... En
Chanal.
Fait, il y en avait 7 ou 8, le tour des victimes peut-être de Chanal, parce qu'il est mort au deuxième jour de son procès, innocent, présumé innocent. Donc je vais faire le tour, il y a 7 ou 8 victimes officielles, moi j'ai fait 15 familles, hein, j'ai fait le tour, je suis allé les voir. Et à l'époque, la police scientifique de la gendarmerie n'existait pas. N'existait pas, c'était un laboratoire qui s'appelait le CARM, Centre d'application recherche microélectronique à Bordeaux. Loïc Leribaud. Et donc, quand il y avait plusieurs morts, comme ça, qu'on attribuait à la même personne, sans doute, et c'était très vraisemblablement lui, eh bien, on parlait pas de meurtre en série. Ça n'existait pas. C'est une succession d'affaires, mais le terme tueur en série, c'était vraiment quelque chose qui venait d'ailleurs, qui venait des États-Unis, quelque chose qu'on a l'impression d'avoir hérité d'eux, alors que c'est aussi bien chez nous que chez eux, peut-être encore plus chez nous, parce que les États-Unis existent depuis 400 ans, 450 ans, on existe depuis 2000 ans.
Ouais.
Alors nous avions la chance d'avoir pu aller, comme vous, au Paul Cold Case de Nanterre. On a pu pénétrer dans cet endroit que nous, journalistes PJ, on fantasme complètement, et notamment de voir cette fameuse salle décellée. C'est presque l'endroit le mieux gardé de ce Paul Cold Case, on le rappelle, c'est là où on travaille sur les crimes non élucidés. Est-ce que, mon général, la science peut nous aider ?
Alors oui, la science peut aider. Et alors, c'est dans le livre, vous le faites très bien remarquer, et c'est quelque chose qu'on retrouve ici régulièrement pour des affaires assez anciennes. Les scellés ont été détruits, ou ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et c'est quelque chose de dramatique, parce que au moment où ils ont été faits, toutes les techniques n'existaient pas, et en particulier c'est pour la recherche d'ADN, et même pour la recherche d'ADN, on sait que ça a beaucoup évolué entre les prélèvements et les analyses d'il y a 20 ans, et ce que l'on peut faire actuellement, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça, face à ce, je dirais un petit peu, cette errance en matière de scellés, qu'a été créé le service central de préservation des prélèvements biologiques, qui est rattaché au laboratoire de la gendarmerie, mais qui fait partie du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pourquoi ? Parce que c'est la banque de tous les scellés biologiques, de toutes les affaires, police, gendarmerie, sans distinction. Et ça permet de garder cette mémoire qui va servir. Et là, on anticipe pour les techniques qui arriveront dans 40 ans.
Et on rejoint le livre de Thibault. Mmh. Donc, tu dis, il faut éviter les prescriptions. Parce que voilà, les meurtres sont prescrits au bout de 20 ans, c'était 10 ans à l'époque, c'est 20 ans maintenant, c'est quoi le problème ?
Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez ce Paul Cold Case qui essaye d'aller chercher la vérité 40 ans après et qui se retrouve face à un mur qui s'appelle la prescription. On a par exemple l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Marie-Thérèse Bonfanti, elle disparaît en 1986, elle a 25 ans, c'est une jeune mère de famille.
Livreuse de journaux, on se souvient de l'histoire.
Exactement, à Pontcharrat, près de Grenoble.
Les disparus de Pontcharrat.
C'est ça, et on retrouve sa voiture à côté de la maison d'un homme qui s'appelle Yves Chatin, qui va devenir suspect principal, qui va être placé en garde à vue, mais qui va tout nier. Eh bien, il se trouve que grâce à l'acharnement de la famille, 36 ans après, le dossier est rouvert à Grenoble, l'homme est à nouveau placé en garde à vue, il avoue le meurtre, pour un mobile futile. Hein. Il dit, elle était mal garée, on s'est disputé, je l'ai étranglé, je l'ai jeté dans un ravin. Et donc, on arrive avec un suspect qui avoue, qui passe quelques mois en prison, mais puis qui est libéré avant même d'organiser un procès, pour cause de prescription. Et la Cour de cassation, parce qu'il y a eu toute une bataille judiciaire, je dirais même un chemin de croix judiciaire, a fini par acter la prescription.
Donc ils n'ont pas suivi la famille ?
Non, la famille est restée toute seule.
Donc Yves Chatin ne sera jamais jugé ?
Alors, il ne sera jamais jugé alors qu'il a avoué, et qu'en plus, il y a eu deux autres meurtres ou disparitions de femmes dans le même secteur, dans la même avenue, pour lesquelles il fait figure de suspect.
Paradoxe de cette société, la nôtre, où on est capable d'aller chercher par les cheveux, 40 ans après, l'auteur d'un crime, mais pas capable de le juger. Parce que la justice n'est pas adaptée. En tout cas, les lois ne sont pas
adaptées. C'est la loi.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, une magistrate du Paul Cold Case qui vous souffle, nous avons fabriqué nos tueurs en série, ce sont les manquements de l'institution judiciaire qui ont permis de sévir encore. On est exactement dans ce cas de figure-là. Alors maintenant, le pire, le plus dissimulateur, le plus agile des tueurs en série, vous en avez quand même une très très belle collection dans ce livre, lequel est-ce pour vous ?
Je dirais que, alors parmi ceux qu'on a déjà trouvés, il y a le grillé, bien sûr, parce que c'est à peu près le seul qui ressemble au tueur en série à l'américaine. C'est-à-dire vraiment, la plupart des tueurs en série sont des marginaux, ou disons qui tutoient la marginalité, ils sont assez bas dans l'échelle sociale. et le grêlé. Il est d'abord gendarme, il est ensuite policier, il commet des meurtres extrêmement sauvages. Il s'en prend à tout type de victimes, justement, un homme, une fillette, un couple. Et lui, on sait qu'il a pu s'arrêter, a priori, mais on ne sait pas tout ce qu'il a fait. Un jour, il avoue à son voisin être traumatisé par des scènes de crime sur lesquelles il allait enquêter en tant que policier ou gendarme. Mmh. Et en fait, il décrit deux scènes de crime, l'une des deux, qui raconte l'histoire d'un homme et une femme retrouvés morts dans un appartement avec des brûlures de cigarettes sur leur corps. C'est un meurtre qu'il a lui-même commis dans le quartier du Marais à Paris en 1987. Et il va raconter à ce voisin-là, j'ai aussi découvert une scène de crime terrible d'une fillette sauvagement mutilée sexuellement. Et là, par contre, on n'a jamais trouvé à quelle scène de crime ce souvenir ou ce faux souvenir correspondait.
Et Thibault, si on avait bossé un peu plus, il n'a jamais été flic en PJ, lui.
Non.
Ni gendarme en PJ.
Non.
Donc il peut pas avoir vu une scène de crime, sauf à arriver comme ça,
voilà,
primo-intervenant.
C'est les primo-intervenants.
Et il pousse le vice jusqu'à se dévoiler, parce qu'on va le retrouver sur une émission de télévision. Donc en fait, c'est assez sophistiqué. Pour se dissimuler, il faut s'exposer. Enfin, en tous les cas, il y est allé jusqu'au bout, et puis il a décidé de se donner la mort.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le clivage avec les experts psychiatres. C'est-à-dire que sans doute que François Vérove, quand il est allé sur le participer au jeu de Nagui sur France 2, tout le monde veut prendre sa place. Soit il s'est vraiment senti dans une impunité totale en se disant on me reconnaîtra pas et même si on me reconnaît, on fera rien contre moi. Ou alors il a clivé, c'est-à-dire qu'il s'est dit non mais le tueur,
c'est
ça fait
moi.
Partie de moi, mais c'est plus moi aujourd'hui. Je peux aller tranquillement sur un plateau
c'est
télé.
C'est fascinant quand même.
Est-ce que comme dans les films américains, le tueur en série à un moment il a envie de se faire prendre pour qu'on sache que c'était lui, pour qu'on sache jusqu'à quel point il était presque parfait dans la commission des meurtres qu'il réalisait.
Alors, dans le cadre de ce travail, je suis allé voir le psychiatre Zaguri, je fais beaucoup référence à lui, mais bon, c'est un peu le
poids lourd. Vous avez le droit,
il est excellent.
Et il m'a cassé un peu tous mes mythes quand je suis arrivé dans son bureau. C'est-à-dire qu'effectivement, il a dit d'abord, le tueur qui défie la police, non, ça n'existe pas, la plupart des tueurs se cachent. Veulent rester en liberté.
Ils veulent pas se faire prendre.
Ou ils ont honte. Et par exemple, Chanal s'est suicidé parce qu'il voulait pas affronter son procès.
Le grêlé aussi.
Voilà, exactement. Le copier-coller des victimes, ça n'existe pas vraiment. Mmh. Guy Georges avait des victimes qui se ressemblaient plus ou moins, mais en fait, plutôt grossièrement, c'est pas...
Elles étaient à Paris, elles étaient jeunes, quoi.
Voilà, c'est tout.
Voilà.
Donc ça va pas plus loin. Mmh. Et évidemment, le tueur en série très intelligent, qui parvient à dissimuler ses crimes. En fait, non, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il bénéficiait surtout des ratés des enquêtes de police et parfois de gendarmerie.
Oui.
En général, votre tueur en série... préféré, s'il est mis.
Alors, je dirais pas préféré, mais qui est étonnant,
plus,
qui intrigue le plus. J'en ai deux. J'ai Allègre parce que c'était quelqu'un qui était à Paris, à Toulouse, etc., a beaucoup voyagé. Partout où il est allé, quand il tuait, il n'était pas dans ce qu'on appelait la zone de confort. Alors, tous ne vont pas dans une zone de confort.
Il prenait des risques.
Il prenait des risques. Après, la plupart de et toutes ces victimes n'étaient pas non plus des prostituées, ce qui fait que il n'avait pas un axe bien particulier.
Stratège. Il mettait le feu aux appartements pour faire croire que l'appartement avait pris feu.
Et c'est Francis Holmes. Lui, c'est le parcours, c'est le routard, c'est quelque chose où on voit un homme qui est invisible pour la société. Parce que les SDF, on les voit pas, même si on sait qu'ils sont là, on veut pas les voir. Et à travers ça, et partout où il est passé, il a laissé des meurtres terribles. Donc,
Et il a même fait endosser la responsabilité à d'autres.
Bien
Patrick
sûr.
Gilles, Montigny-les-Metz,
exactement.
Alexandre et
exactement.
Cyril.
Et
il a embarqué avec lui Laurence Guillaume, quand il tue Laurence Guillaume, son cousin. Quand il tue Joris Viville à la sortie d'un camping dans le midi, il embarque un infirmier avec lui dans la voiture, enfin des gens qui n'ont rien à voir avec Francis Holmes.
Oui.
Il arrive à les embarquer avec lui parce qu'il ne conduit pas et à leur dire tiens, viens, emmène-moi, on va faire un truc tous les deux.
Et vous, Dominique ?
Celui qui me bluffe le plus, Holmes.
Bluff,
Francis Holmes.
Non, intrigue.
Non,
ouais.
Oui. Enfin, bluff au sens de journalistique de mon univers, pardon, oui.
Vous, c'est qui ?
Merci de me reprendre là-dessus. Mais Francis Holmes. Parce que Francis Holmes, il est tellement imprévisible et il est Allègre est intelligent, Fourniret est intelligent, Le Grêlé est intelligent. Holmes, j'ai utilisé une expression, bon, pardonnez-moi pour tous ceux qui nous écoutent, mais il est teubé quoi. Quand on le voit, puis moi je suis très pote.
Alors nous on dit bas de plafond en général.
Oui, je suis très pote avec Jean-François Abgral qui est le gendarme comme qu'il a retrouvé.
Tout à fait.
Et Jean-François, quand il parle de lui et de ses entretiens avec lui, il me dit mais pas du tout. C'est un calculateur. Il raconte des scènes de crime en disant il a fait ça, je l'ai vu faire ça. Et c'est lui, comme le grêlé, qui raconte, j'étais là, j'ai tout vu, j'étais sur la scène de crime. Et puis, j'avais vu la sœur, j'avais rencontré sa sœur, Christine Holm. Christine Holm Goncalves, qui depuis, bon, veut plus parler ni à moi, ni à personne d'ailleurs, mais qui me parlait son frère avec tellement de tendresse. Puis il y a le moment où il bascule, la mort de sa mère, il part sur les routes, et vous allez voir, parce que Jean-François Brale continue à travailler, qu'on va sortir. Oui. Il va sortir d'autres affaires, oui. Le pôle Colquès.
Ils ouvrent le parcours, exactement.
Même si Francis Holm est en mauvaise santé.
Oui.
Il
est passé dans l'hôpital pénitentiaire dans lequel, au sein de la prison, là où il est incarcéré. Ouais. Dernière question, Thibault, est-ce qu'il existe encore des tueurs en série?
Bien sûr. D'abord, ça ne peut pas disparaître comme ça. Effectivement, on se dit qu'avec les techniques scientifiques, plus aucun tueur en série ne peut passer entre les mailles du filet. Bon, si on se penche sur Nordal Lelandais, qui a tué officiellement 2 victimes, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a une troisième, en tout cas pour l'instant on n'a pas trouvé. Nordal Lelandais, il a un vrai mode opératoire de tueur en série. À chaque fois, il s'en prend à des victimes vulnérables. Un caporal qui sort de boîte un peu éméché en avril 2017, une jeune fille lors d'une fête de mariage. Il est dans sa voiture, il les frappe à coups de poing, et surtout, il parvient à dissimuler les corps dans des endroits où personne autour de cette table n'aura envie d'aller à 3 heures du matin, c'est-à-dire vraiment dans la montagne, dans la forêt. Et en fait, déjà, Nordal Lelandais, dans les années 80, il serait passé inaperçu. Là, on le coince grâce à la micro-goutte de sang, mais surtout, c'est dissimuler un corps. C'est comme ça qu'un tueur en série peut encore agir aujourd'hui.
Merci à tous pour vos lumières. Excellent travail d'enquête, oui. Thibault Solano. En espérant que grâce au progrès de la science, oui. Mon général, des certaines affaires s'éclairent enfin. Merci, messieurs.